aider Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Restons courtois. J'espère que vous nous avez écoutés pendant la première heure passionnante avec Ludovic Grayling sur la manière dont l'Union européenne est en fait en train de bâtir une nouvelle Union soviétique, mais avec les mêmes prétentions au mondialisme. Et c'est avec plaisir que nous recevons, avec Lucien Rabouille et Jean-Étienne Poza, Maud Marianne, avocate, qui, elle, ne lutte pas contre l'international socialiste ni contre l'alliance progressiste créée pour permettre à certains capitalistes de faire partie de ce grand rêve utopique, mais qui lutte très concrètement aux côtés des Français qui ont commencé à être heurté par les différents chocs intelligents de compétitivité, de salubrité et d'éducation que Emmanuel Macron et ses troupes font subir aux Français. Bonjour Maud Marianne.
Maud Marianne.
Bonjour. Oui, c'est pas grave. Marianne ou Marianne, simplifions-nous la vie, c'est un nom d'origine arménienne de toute façon, donc on doit mal le prononcer, j'imagine.
Eh bien, Maud Marian, ça me va très bien. Jean-Étienne Poza, donc c'est grâce à vous que Maud Marian, dont les gens connaissent le combat, est ici. Allez-y, ouvrez le dialogue.
Eh bien, écoutez, merci d'avoir, en tout cas, d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Pouvez-vous, écoutez, pour commencer, nous présenter votre parcours professionnel en tant qu'avocate spécialisée en droit des affaires internationales et en droit pénal des affaires, et comment êtes-vous passé d'un cabinet traditionnel à la défense de causes plus controversées?
Si vous voulez, déjà, ça part de plus loin. Je pense que déjà, à la base, la volonté ou le souhait d'être avocat qui m'a pris assez jeune venait de... Je pense d'une injustice que j'avais dû vivre à l'école tout bêtement et qui m'a amenée à tout de suite me dire mais il faut faire quelque chose. Bon, j'étais déléguée de classe, enfin des choses assez classiques. Après, pendant mes études, finalement, j'avais plus très envie d'être avocat. Ça m'avait l'air très compliqué. Et puis j'y suis revenue par la force des choses parce que pour des raisons économiques, il a fallu que je me mette au travail. Et donc moi, ma formation à la base était quand même très internationaliste. Hein. J'avais fait du droit international privé et du droit international public. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais pas vraiment être avocat. Le droit international public et ce dont vous parliez tout à l'heure me passionnait, les conflits, les rapports économiques, les investissements, enfin toutes ces choses-là me passionnaient. Finalement, la vie a fait que je me suis retrouvée dans un cabinet de droit maritime. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis mise à faire des transports, beaucoup de transports, donc beaucoup de ventes internationales, d'où ma compétence en affaires internationales. Mais j'ai toujours eu une sensibilité aux droits humanitaires, aux droits de l'homme. J'avais une formation assez cossue à Paris 1 sur ces plans-là. Et j'ai toujours fait un peu de pro bono. C'est-à-dire que malgré mes activités, à côté, je prenais des petits dossiers, des dossiers non rémunérés, qui pouvaient être des gros dossiers d'ailleurs pour des gens embrassés, qui vivaient des choses qui étaient au-delà même du dissible, vraiment qui étaient écrasés par le système et qui ne trouvaient pas d'avocat ou qui, à l'aide juridictionnelle, étaient mal défendus. Donc c'est ancien. Et puis au bout d'un moment, j'ai mis du temps quand même, mais en 2014, donc ça faisait à peu près 17 ans que j'étais avocat, j'ai eu une lassitude terrible de faire des choses qui devenaient de moins en moins sensées pour moi. C'est-à-dire, effectivement, les litiges étaient très importants en montant, on gagnait plutôt bien notre vie, c'était techniquement intéressant, mais c'était très éloigné des gens. Donc j'ai quitté mon cabinet de l'époque Et je me suis installée à mon compte en essayant de rester généraliste, c'est-à-dire de revenir un petit peu vers les humains, enfin le droit des personnes, donc depuis le divorce, l'enfant placé, enfin des choses comme ça qui m'ont ramenée vraiment vers les gens. J'avais fait beaucoup de pénal pendant cette longue période de 17 ans, parce que mon associé était pénaliste, et le pénal avait été un point de sensibilité chez moi. Puisque ben, visiter les gens en prison, voir les difficultés qu'ils rencontraient, ça m'avait touchée. Mais c'est très spécial la défense pénale, parce qu'on défend évidemment souvent des gens accusés de choses assez graves, qui parfois les ont faites. Donc c'était encore pas vraiment l'idéal pour moi. Et 2020, alors 2020, pour être très honnête avec vous, déjà j'ai raté complètement les gilets jaunes, je le reconnais. Hein, j'étais sur une autre planète, je sais pas, j'ai pas été touchée, j'ai pas vu, j'ai pas su. Je fais partie peut-être des Français qui étaient informés que par les chaînes d'info continue. Enfin, je sais même pas vous dire en fait. Je n'ai pas le souvenir d'avoir été impactée
Plus que ça,
émotionnellement ou politiquement. Enfin, ça m'a pas. J'ai pas vu. Et puis bon, 2020 là, pour le coup, j'étais comme tout le monde enfermée chez moi. Et vraiment, l'obligation vaccinale des soignants, ça m'a assommée. Enfin, après l'allocution du président que je n'ai pas entendue sur le coup, je l'ai entendue un peu plus tard parce que j'étais en cours, je prenais un cours en distanciel. Et quand je l'ai écoutée, je me suis assise dans le noir et je me suis dit, mais ça y est, on est rentré dans autre chose, on est rentré dans quelque chose de sombre, il y a un problème, il y a un gros problème. Et tout de suite, alors c'est très étrange, mais je me suis tout de suite fait le film d'une société qui devenait absolument totalitaire, où on allait nous arrêter, nous emmener dans des caves. Enfin, je sais pas pourquoi, ça m'a paru vraiment sonner comme ça, à la soviétique ou voilà, ou aux pires heures de l'histoire du monde. Et je me suis dit, bah en fait, oui, bah tant pis, même si ça devait m'arriver, même si je pensais aux armées des ombres, enfin, je suis partie dans une espèce d'imaginaire un peu dramatique, et je me suis dit, bah tant pis, en fait, c'est mon job, moi, je vais pas les laisser tomber, ces gens. Et tout de suite, j'ai contacté Divisio, Coreïtem, enfin, les avocats qui s'étaient manifestés pendant la crise sanitaire et qui étaient déjà au pied d'œuvre, hein, donc Brusa, enfin, tous ces gens-là, et je leur ai dit, moi, je suis à votre dispo, même pour faire des photocopies, mais je veux les aider. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans un groupe d'infos, je sais même plus, un truc à Paris, où ils s'occupaient des soignants suspendus, mais pas que.
Les 400.
Alors non, et alors après, c'est là où, en fait, je me suis retrouvée avec Diane Prota, qui d'ailleurs en ce moment se mobilise aussi pour
Tout à
les
fait.
agriculteurs. On a fait un zoom une fois par semaine avec des soignants suspendus pour les aider, en fait, pour les faire tenir. Et puis ce groupe m'a inspiré de dire, non, mais attendez, il faut qu'on se mobilise au niveau national, les avocats. Donc je me suis mise à écrire à plein d'avocats, à appeler plein d'avocats en disant, il faut constituer un groupe. Et mon idée, c'était de créer un maillage territorial, donc d'avoir un avocat dans tous les départements, et si possible, d'avoir un avocat dans toutes les spécialités qui pouvaient être touchées au niveau. Alors, là, sur le coup, on était dans la crise sanitaire, mais je voyais déjà au-delà. J'avais déjà imaginé que ça allait être plus compliqué. Donc, je voulais qu'il y ait des avocats spécialisés dans toutes les matières et qu'on puisse faire un collectif. Voilà, s'organiser un minimum pour défendre des gens qui allaient se faire arrêter, qui allaient perdre leur job. Enfin voilà, dans mon esprit, on était parti pour faire une espèce de guerre juridique. Et donc avec Marc Gauthier, qui hein, s'est connu aussi pour son engagement,
Tout à fait.
on a lancé le collectif des 300.
Les 300, oui.
Voilà, on a été en réalité, on n'avait jamais été vraiment 300, on était 294.
Vous voyez, moi j'avais dit les 400, c'est encore plus.
Alors,
294,
les 300,
c'est déjà
c'était.
bien, c'est voilà.
Voilà.
Oui. Ah non, non, mais alors vraiment, en plus, on s'était dit, nous, on l'a lancé, on était deux. On a lancé le collectif des 300 en étant deux. Mais en se disant, bon, on faisait référence au film Les 300. Bon, il y avait ça.
Oui.
On se voyait déjà un petit peu dans cette. On voulait garder cette espèce de mentalité de se battre jusqu'au bout. Et puis, on s'était dit que si on annonçait qu'on était 300, les gens allaient venir. Tandis que si on annonçait qu'on était deux, les gens n'allaient pas venir. Et on a eu raison, en fait. Et donc, on s'est retrouvés enfin, à animer ce collectif qui a commencé à intervenir un peu à droite à gauche et puis qui s'est structuré pour faire des recours. Et c'est là où, En fait, moi, j'ai conservé. Alors, ça a été un peu fou et ça n'a pas été simple. Mais j'ai voulu défendre dans les soignants suspendus ceux qui n'avaient absolument aucun moyen. Donc, les aides-soignants, enfin, les plus petits, les petites gens, quoi, les petits administratifs et tout, qui, de toute façon, n'avaient pas trouvé d'avocat pour les défendre. Donc, je les ai défendus gratuitement et enfin, j'ai pas tout à fait
Ah
terminé
oui, c'était
encore.
même pas l'AJ, c'était gratuitement.
Non, non, je voulais
Quand vous
même
dites que vous
pas.
n'avez pas terminé, parce que évidemment, toutes ces actions en justice, elles sont longues, elles sont pénibles.
Oui.
La justice y a répondu avec réticence. Voilà, l'époque n'était pas à la gentillesse et à la clémence envers ceux qui avaient refusé cette injection. Le gouvernement était en train de les criminaliser. Aujourd'hui, quel bilan tirez-vous en fait de ces années de combat en faveur des soignants suspendus?
Alors d'un point de vue juridique, c'est le bilan est très très mauvais dans le sens où on a tout perdu en fait, hein, enfin à quelque chose près, on a tout perdu. Ce qui est plus gênant, enfin si vous voulez, ce que je dis souvent à mes clients dans tous les dossiers, perdre c'est pas forcément le problème. Des fois on peut perdre, mais si on a été jugé correctement et qu'on est capable de comprendre pourquoi on a perdu un dossier. On a avancé quand même. Bon, parce qu'on n'a pas que des très, on n'a pas que des très beaux dossiers. Des fois, on a des mauvais dossiers. Enfin, ça arrive. Là, ce qui m'a dérangé avec les soignants suspendus, c'est qu'on avait un résultat préétabli par le Conseil d'État, parce qu'on sait, même si c'est pas officiel, mais dans le groupe des 300, il y avait des magistrats qui sont restés anonymes. Il y avait des greffiers, enfin, il y avait des gens qui étaient bien placés pour savoir. En fait, dès le départ, le Conseil d'État, par son président, qui est l'ancien, c'est quand même beau à savoir, le président du Conseil d'État qui a pris en charge tous ces dossiers de soignants suspendus, c'est celui qui était à la tête de l'ANSM quand il y a eu le scandale, rappelez-moi, attendez, c'était quel médicament? Merck, je crois. Enfin, vous savez, là, il y a eu un terrible scandale. Il était à la tête de l'ANSM. Et en fait, bon, bref, ça
Le
me...
médiator, non?
C'est ça, le médiateur,
Comme vient de
merci.
dire Louis.
Ah,
Lucien,
pardon, bah
pardon.
merci, oui, c'est ça.
Lucien, Lucien.
La mémoire est faillible, ce soir. Louis, Lucien.
Oui, bravo, parce que c'était vraiment important de le dire. Donc, si vous voulez, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a étouffé un scandale sanitaire à l'époque, qui aurait pu être embêté, puisque l'ANSM a été embarrassée d'avoir réagi aussi tardivement sur Mediator.
L'ANSM, l'Agence nationale du médicament, hein, hein.
Médicaments. Et c'est lui maintenant qui est à la tête de la section du Conseil d'État, enfin du Conseil d'État, qui dit si les soignants suspendus ont bien fait de ne pas accepter cette injection. Donc, juste pour vous donner, ouais,
Oui,
c'est la
c'est...
Macronie, quoi. Enfin, vous avez compris, c'est la
Voilà.
Macronie. Voilà, c'est une telle qui est à la tête de la Cour des comptes et qui doit juger ses copains. Enfin, voilà, c'est la Macronie dans toute sa splendeur. Donc, déjà, quand on nous a annoncé ça, autant vous dire, on savait que ça allait être compliqué. Et en fait, les magistrats, apparemment, ont reçu des instructions du Conseil d'État leur disant comment il fallait juger. On a eu beaucoup de jugements qui, dans des tribunaux différents, étaient des copier-coller, quitte à pas répondre à ce qu'on demandait. Donc, on est parti du résultat et on a reconstitué les décisions de justice à l'envers. On a fait du reverse engineering, alors même que objectivement, on avait des points d'accroche, des points d'entrée importants, intéressants et techniques. C'était pas un problème politique ou un problème. C'était pas une question d'avis ou voilà. Moi, j'ai même pas d'avis a priori sur le sujet. Je sais pas qui je serais pour décider à la place d'un médecin, par exemple. Mais techniquement, juridiquement, là, j'ai un avis. Et mon premier avis, c'est ce que j'ai toujours dit aux soignants suspendus, c'est qu'en fait, la vaccination obligatoire des soignants existait bien avant le Covid. Elle existe depuis 1937 en France de mémoire. Et elle a été organisée par le Code de santé publique. Pourquoi changer la loi quand une loi fonctionne depuis presque 100 ans? Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Et nous dire, bah non, alors pour le Covid, par contre, on ne va pas appliquer la loi de d'habitude, on va en créer une tout à fait nouvelle et on va vous suspendre. Suspension qui n'existe pas en droit français, ça n'existe pas. Et on va vous suspendre sans rémunération. Bon, bah, du coup, voilà, on crée un truc, encore la Macronie, on crée une chose, un bidule, hyper délétère, en disant, non, mais vous savez, on a été très gentil, on aurait pu vous licencier, mais en fait, on est gentil avec vous, on garde vos contrats de travail. En fait, c'était la pire décision à prendre. Techniquement, on avait des vrais arguments et aucun argument n'est passé, mais aucun. Mais aucun. Alors, pour vous dire, moi, j'ai dû gagner trois dossiers. Un à l'Académie de Versailles pour un médecin scolaire. Donc, l'Académie a été très correcte. Elle a rémunéré, enfin, prenant acte de l'annulation, elle a finalement versé tous les salaires. Mais les autres décisions que j'ai pu obtenir, qui étaient dans le sens du soignant, de toute façon, les soignants n'ont pas perçu leur salaire au motif qu'ils n'avaient pas travaillé. Donc, en gros, même si j'ai eu tort de vous suspendre, de toute façon, je ne vous paierai pas. Bon.
Non.
Et en fait, ce qui est terrible, c'est de se dire qu'on a vraiment bossé le droit, on a vraiment. Je peux vous assurer, à la fois dans mon groupe, mais hors de mon groupe, enfin, vous connaissez Guyon, Coréthène, tous ces gens qui se sont battus aussi très bien. On a tous fait vraiment du vrai boulot d'avocat et il n'y a rien qui est passé. Donc, en gros, ce qui est gênant là dans le bilan qui est le mien aujourd'hui sur ça, c'est plus que j'ai l'impression que quand on se bat contre le système, j'aime pas ce mot, mais c'est un peu l'impression qu'on a quand on va à rebours de l'air du temps. On peut avoir des super bons arguments, on peut avoir le meilleur dossier du monde. Si les juges sont ancrés voilà, soit dans une croyance, ce qui est à mon avis le cas des magistrats de l'ordre administratif concernant le vaccin, la croyance principale étant quand même que le vaccin a sauvé des gens et que il fallait éviter la contamination, etc., grâce au vaccin, ce qui s'avère faux et on le savait. Enfin, je veux dire, on l'a tous constaté, et on le savait dès le départ, on le savait dès l'AMM, on savait que ça marchait pas. Donc oui, mais vous comprenez, la santé publique, il fallait sacrifier à la collectivité, etc., ce truc. Mais qui rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est-à-dire qu'on arrive dans une ère où l'individualisme devrait céder le pas, enfin, la santé individuelle doit céder le pas devant le collectif. Vous devez accepter la roulette russe d'avoir des effets indésirables, même si soi-disant rares. Alors j'aimerais savoir, mais rare ou pas rare, est-ce que vous voulez prendre le risque? Ah oui, bah, pour la collectivité, vous devez accepter de mourir d'un vaccin. Ça n'a pas de sens. Enfin, voilà, et on est rentré dans cette logique qui est reprise dans le droit. Mais qui au fond est d'abord politique, idéologique et tout quoi. Donc c'est-à-dire que finalement la justice n'est que l'expression de l'évolution de notre société sur tout le reste en fait. C'est
Et vous avez défendu Amandine Roy dans l'affaire liée aux rumeurs sur Brigitte Macron. Pouvez-vous nous rappeler les enjeux de ce dossier et votre rôle en tant qu'avocate de la défense?
Bah, c'est un peu la même chose. Enfin, je veux dire, c'est sur un autre niveau, mais pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que Amandine Roy, je l'ai défendue sur plusieurs procédures, parce que Amandine fait partie des gens qui ont été vraiment poursuivis à plusieurs reprises par Monsieur et Madame Macron. Et vraiment, elle a une histoire juridique et judiciaire avec ces gens.
Tenace.
Ah oui, il la lâche pas. Donc en fait, elle a été poursuivie essentiellement pour ce que beaucoup de vos auditeurs doivent connaître maintenant, c'est la fameuse interview qu'elle a organisée pour Natacha Ray en décembre 2022, quand Natacha Ray a voulu porter à la connaissance du public les conclusions auxquelles elle était arrivée sur l'éventuelle transition de genre de Madame Macron. Donc, elles se sont réunies pendant plusieurs heures, 4 heures, sur YouTube en direct pour parler de ça. Donc, elles ont été poursuivies d'abord pour violation, enfin, atteinte à la vie privée sur le plan civil, toutes les deux. Elles ont gagné parce que le juge a estimé que l'assignation devait être annulée. Bon, ça, c'était la très, très bonne nouvelle. Elles ont également été poursuivies en diffamation. Dossier qui a donné lieu d'abord à une condamnation, puis à une relaxe devant la cour d'appel. Relaxe qui est aujourd'hui portée au jugement de la cour de cassation. Donc je pense qu'on aura une décision dans le courant de l'année prochaine.
C'est l'État qui a demandé qu'on casse le jugement, parce que, enfin,
Alors,
l'État,
alors tout le monde,
ce sont
alors
les
oui,
Macron.
Alors, ouais, mais c'est amusant. J'allais vous reprendre en vous disant oui et non, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, Brigitte Macron et son frère ont effectivement fait un pourvoi en cassation, ce qui est leur droit. En tant que partie civile, ils avaient le droit de faire ça. Mais ce qui est plus étrange et plus marquant, et je pense qu'il faut en tirer toutes les conclusions qu'on pourra tous, c'est que le parquet général a fait aussi un pourvoi en cassation. Alors vous me direz, d'abord ça veut rien dire pour les gens, ils se disent ouais, enfin, on s'en fiche, on ne sait pas qui c'est ces gens-là. Alors le parquet, c'est quand même, on le sait maintenant, vous avez tous compris, le parquet, c'est les procureurs qui déterminent grâce, enfin, qui via le ministère de la Justice déterminent la politique pénale française. Donc c'est eux qui poursuivent les gens, c'est l'autorité de poursuite. Ces procureurs qui sont censés être des magistrats indépendants, en vérité, le sont absolument pas, on le voit au quotidien dans les préférences qu'on peut voir dans poursuivre telle affaire au parquet financier mais pas telle autre, poursuivre telle personne mais pas telle autre, être très sévère dans la poursuite, je sais pas moi, d'un petit criminel local et puis beaucoup moins quand il s'agit d'un homme politique, enfin voilà ce genre de problématique. Mais surtout dans les affaires entre parties, c'est-à-dire les affaires où la poursuite est engagée par une personne victime,
Victime.
des victimes, normalement le parquet, c'est-à-dire l'autorité de poursuite, se met en retrait. Ils disent, bon, écoutez, vous êtes bien gentil, là, vous vous battez, parce qu'on est tout à fait autorisé en France de poursuivre nous-mêmes quelqu'un. Je peux citer quelqu'un pour un délit pénal devant une juridiction en tant que victime, je le dénonce en tant qu'auteur et le juge va nous écouter tous les deux et décider si oui ou non je suis victime d'une infraction et la personne est auteur. Mais dans ces conditions-là, le parquet en général dit, oh, moi je me mêle pas, je vous laisse débattre, il y a des avocats, débrouillez-vous, et il se met en retrait. Donc là, déjà pendant les audiences, le parquet était très impliqué, plaidait que Madame Macron avait raison, etc. Mais surtout, pour la première fois, je crois, de l'histoire de la diffamation en France, le parquet général s'est saisi du jugement, enfin de l'arrêt de la cour pour aller en cassation. Et ça, on l'a jamais vu, en fait. J'en ai parlé avec mon avocat au conseil, Maître Boutors, qui est un vieux de la vieille, il l'avait jamais vu non plus. Normalement, le parquet général se pourvoit en cassation dans l'intérêt de la loi, c'est-à-dire s'il voit qu'il y a une problématique de droit qui est très importante et qui mérite d'être tranché au plus haut de la pyramide judiciaire, il peut décider de le faire pour, voilà, dans l'intérêt vraiment public, parce que le parquet représente l'intérêt public. Là, ils sont prêts à prendre en charge les intérêts privés de Madame Macron, enfin, si on peut dire privés d'ailleurs, parce que c'est un
Oui.
peu plus compliqué que ça, mais voilà, de prendre en charge ces intérêts-là et d'aller les porter à la Cour de cassation. Donc, on est dans une situation où quand on dit qu'il y a un peu mélange des genres du côté des Macron avec usage, enfin utilisation du pouvoir de l'État vis-à-vis des Français, on n'est pas très loin de pouvoir le confirmer par ce genre d'attitude du parquet général de Paris, quoi. Alors ça, c'est donc la deuxième
Ouais.
affaire. Elle a été poursuivie aussi pour avoir publié sur X et sur d'autres réseaux une affiche de Monsieur Fiori qui avait été lui-même relaxé pour la même affiche. Donc, malgré la relaxe de Monsieur Fiori, elle a été d'abord condamnée en première instance et relaxée en appel. Enfin, voilà. Et là, donc, la grosse affaire de cyberharcèlement dont on a beaucoup parlé en fin d'année dernière. Dossier donc très nébuleux. On a reçu le jugement, les 115 pages de jugement. Bon.
Justement, Maître Marien, comment interprétez-vous cette décision et pensez-vous qu'elle marque un tournant dans la lutte contre la désinformation, en ligne?
Écoutez, cette décision, elle s'inscrit clairement dans une tendance générale annoncée depuis bien longtemps par notre président que notre parole va être contenue, sinon censurée. Bon, évidemment, on vous met ça dans des très jolies formules. Comme on est trop bête pour bien se renseigner, comme on est trop bête pour réfléchir par nous-mêmes, il va y avoir une vérité qui va nous être imposée, ce qui nous évitera de partir, de réfléchir trop, trop pertinemment. Donc, en gros, si on n'est pas dans la ligne des médias mainstream eux-mêmes validés, labellisés comme ayant la parole, sinon divine, en tout cas républicaine acceptable, bon, on sera condamné. Donc, entre les lois qui sont passées ou pas, mais enfin, toutes les tentatives pour mettre la parole sous le boisseau et les décisions de justice qui se multiplient, qui ont tendance à tirer les lois vers une répression de plus en plus sévère de la parole et de l'expression. J'ai envie de vous dire, bah oui, cette décision, elle montre quoi? Elle montre que là aussi, même problème que pour les soignants suspendus, le droit peut être manipulé et utilisé à d'autres fins que des fins de régulation de la société, si vous voulez. Pour moi, le droit, c'est pas géométrie variable. Le droit, c'est quelque chose qui nous permet à tous de dire, enfin, de fonctionner tous ensemble et qui doit être à la fois suffisamment rigoureux, c'est-à-dire appliqué à tout le monde pour qu'on ait de la prévisibilité, mais qui soit aussi suffisamment souple pour que la société soit pas handicapée dans ses actions. Donc, le droit, c'est quelque chose de structurant. Or, maintenant, le droit est devenu un outil au profit, enfin, au service de certains. Il y avait un vieux proverbe, alors je ne sais plus quel auteur de droit très, très ancien, je vous parle de ça, c'était peut-être au 11e ou 12e siècle, qui avait dit le code civil, enfin, les lois civiles servent à mettre. À enrichir les riches et le code pénal sert aux riches à mettre les pauvres en prison. Mais enfin, c'est fou parce que c'est à peu près ça maintenant. C'est-à-dire que bah, vous avez la loi, au lieu d'être appliquée à la fois avec rigueur et bienveillance, sert le pouvoir ou une idéologie ou une politique, une direction politique pour. Voilà, pour nous mettre dans des petites boîtes, dans des petites cages et nous empêcher de faire les choses. Là, sur le cyberharcèlement, pour moi, il n'y avait pas de cyberharcèlement. Je l'ai dit, redit. Déjà, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il n'y avait pas de dégradation de l'état de santé de Madame Macron. Enfin, en tout cas, il n'était pas prouvé. Et à la date où on en parlait, de toute façon, entre les deux, il était passé l'affaire Candace Owens. Donc, même s'il y avait eu dégradation de l'état de santé de Madame Macron, comment faire le tri entre l'exposition mondiale à laquelle la condamnée Candace Owens et puis nos petits tweets, nos 6 ou 7 petits tweets qui touchaient 300 personnes en France, voilà, très très restreints. Comment faire la part des choses? On ne pouvait pas. Et en plus, de toute façon, on l'a dit tous, Madame Macron, c'est pas fendu d'une expertise, c'est pas fendu d'un dossier médical, enfin, c'était n'importe quoi. Et donc vraiment, ça revient à nous dire, ben, vous ne pouvez pas exprimer une opinion ou un avis, ou même commenter, ou même si vous devez être super méchant avec un homme politique, une femme politique, quelqu'un qui se met toujours en valeur ou en avant dans l'espace public, ben, si vous avez quelque chose de pas gentil à dire, dites-le pas parce que vous allez être embêté, on va finir par vous mettre en prison. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on a une loi en France sur la liberté d'expression depuis 1881 et que s'il n'y a que cette loi qui aurait dû être, qui devrait pouvoir, encore une fois, réguler la parole. C'est pas interdire, c'est réguler la parole. C'est-à-dire que la parole s'inscrive hors, les infractions pénales. On avait cette loi, pourquoi inventer d'autres lois? Pourquoi se servir de lois qui sont censées protéger les enfants pour protéger la femme du président? On ne comprend plus rien, sauf qu'on est obligé d'en conclure, j'allais dire de manière un peu complotiste, parce que maintenant on est des complotistes si on pense ça, bah, qu'il y a un système qui joue contre nous et qui veut nous faire taire. En fait, on est obligé de se poser au moins la question, de dire non, mais là, c'est plus possible. Parce que, encore une fois, ça n'a aucun sens d'un point de vue juridique.
Maud Marian, quand vous dites que c'est complotiste, en même temps, c'est vrai, quand on regarde la manière dont la France et Emmanuel Macron singulièrement construisent pour l'Union européenne et avec l'Union européenne et avec les États-Unis à l'époque des démocrates, hein, une série de lois pour encadrer l'usage des réseaux sociaux, quand on voit toutes les propositions de loi, la loi Avia, la loi Payan qui est à venir pour encadrer la liberté d'expression, quand on voit que le président de la République est capable d'expliquer que la liberté d'expression est une pure connerie, je m'excuse auprès des auditeurs de Radio Courtoisie, mais c'est la traduction la plus littérale et la plus exacte qu'on peut donner de ses propos qu'il a prononcés dans un pays étranger, en Inde. C'est pas complotiste d'expliquer qu'il y a effectivement un système qui veut garder la définition du vrai, du beau et du bien. Le bouclier démocratique d'Ursula von der Leyen n'est pas un projet complotiste qui aurait été révélé sur un site internet douteux. C'est elle-même qui explique qu'il faut encadrer la liberté d'expression. Jean-Noël Barrot, on en parlait au tout début de cette émission de Restons Courtois, nous expliquait que l'international réactionnaire doit se taire. Et il a expliqué qu'il fallait mettre au pas les réseaux sociaux. Enfin, autrement dit, si c'est un complot, c'est un complot qui est vraiment très mal foutu, parce que tout le monde est au courant et les complotistes le complotent à ciel ouvert.
Non, mais en fait, ce qui est complotiste, c'est de l'avoir dit, je dirais, depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on l'a vu arriver, enfin, vous, nous, tous les gens qui sont attentifs aux signaux faibles, savaient qu'on filait un mauvais coton depuis bien longtemps, que de toute façon, la parole devait être monopolisée et réservée à certains. Parce que le débat n'est plus accepté. D'ailleurs, le débat est tout le temps mis, je dirais, enfin, stigmatisé, alors que le débat, c'est magnifique. Enfin, dès qu'il y a du débat, on nous dit que c'est plutôt du bordel ou que les gens sont bêtes ou disent n'importe quoi, etc. Et puis, les réseaux sociaux, ben, effectivement, c'est une voie d'expression... j'allais dire plus libre et surtout avec une forte, forte résonance qui est en plus, enfin, dans notre cas, c'est spécial parce que effectivement les réseaux sociaux sont défavorables à notre président, enfin, je veux dire à lui et à bien d'autres. C'est-à-dire que la grogne qui circule sur les réseaux, c'est ça le problème, c'est pas autre chose. En fait, s'il était... Si sa politique était appréciée et que les résultats étaient positifs pour nous tous, bah, on dirait du bien de lui, il serait ravi qu'il y ait des réseaux sociaux. Mais comme ce n'est pas le cas, bah, il préférerait qu'on se taise ou qu'on dise du bien de lui, même si on n'en pense pas. Et donc, forcément, il y a une difficulté. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a gagné notre espace de liberté en envahissant les réseaux sociaux et en les utilisant de manière, j'allais dire, presque plus intelligente que ce qui était prévu au départ, parce que au départ, c'était juste de partager des images de chats et de se raconter ce qu'on avait déjeuné à midi. Non, mais c'est vrai.
Oui, c'est
le Facebook de base, à la base, c'est pas pour raconter, c'est pas pour parler politique. C'est vraiment pour entretenir d'autres types de relations. Et comme les gens sont intelligents et qu'ils ont beaucoup de choses à dire et qu'ils s'écoutent les uns les autres, qui débattent aussi sur les réseaux, c'est devenu un espace de liberté qui leur fait peur. Donc oui, l'affaire Brigitte Macron n'est que une des pierres d'un édifice dont on a bien compris qui nous menace tous d'une manière ou d'une autre. Il y a des répressions vis-à-vis des avocats. Enfin, pendant la crise sanitaire, précisément, il y a eu des poursuites contre certains avocats qui sont restés assez discrètes. Là, par exemple, pour notre confrère Juan Branco, c'est un peu plus visible parce qu'il en parle. Mais on voit bien que même nous, qui sommes une profession, normalement, justement, de liberté, on est censé avoir la liberté de parole, on a une immunité quand on plaide, etc. Ben, même nous, on peut être poursuivi pour être trop partisan. Virginie de Arojo-Rekia, pendant la crise sanitaire, a été arrêtée, placée en garde à vue parce que... voilà, pareil, elle plaisait pas au système et qu'elle a dit qu'on était de rentrer en dictature, etc. Enfin, donc, je veux dire, on voit en plus ce genre de trucs qu'on les voyait avant dans ce qu'on appelait les dictatures. On l'a vu par exemple, je sais pas, en Iran, en Turquie ou dans des pays comme ça. Puis maintenant, ça vient chez nous et on nous explique qu'on n'est toujours pas la Corée du Nord. Enfin, je sais pas, je trouve qu'on s'en rapproche dangereusement et du coup. Effectivement, on est tous là, on est dans une période vraiment sombre. Hein,
et trois ans, maître, après les suspensions, où en est la réintégration des soignants concernés? Pensez-vous que le gouvernement actuel pourrait revoir sa position, surtout avec les débats sur la sécurité sociale et les retraites en 2026?
Non, mais c'est dramatique, parce que d'abord, dans les soignants... la réintégration... elle s'est faite bon an, mal an. C'est-à-dire que les gens, quand même, pour beaucoup, se sont retrouvés à se voir proposer des postes bien inférieurs à ceux qu'ils avaient ou des postes qui ne leur convenaient pas. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas garanti une équivalence. Ils ne sont pas revenus dans le poste qu'ils avaient quitté, enfin, dans lequel ils étaient quand ils ont été suspendus. Ça, c'est la première chose. Et personne ne le sait parce que ça n'a pas été du tout porté à la connaissance du public. Donc, il y avait déjà beaucoup de gens qui ne voulaient plus aller à l'hôpital, enfin, qui ne voulaient plus travailler dans les établissements hospitaliers. On peut le comprendre. Ils avaient été vraiment embêtés et puis maltraités parce qu'on ne les a pas seulement suspendus, mais on les a maltraités en plus verbalement, harcelés, etc. Donc beaucoup ont démissionné. Malheureusement, il y a eu des suicides aussi. Ceux qui sont retournés travailler me racontent que c'est pas facile du tout, qu'ils ont pour certains vécu vraiment un enfer au retour parce qu'ils ont été très critiqués, etc. Et aujourd'hui, moi, j'ai presque le phénomène inverse, c'est-à-dire tous ces gens qui n'ont pas été vaccinés sont désolés de voir leurs collègues dans des états de santé pas possibles à cause des effets indésirables qui sont vraiment nombreux. Donc vous avez en plus maintenant l'effet boomerang inverse, c'est-à-dire des gens extrêmement malheureux de voir que leurs collègues sont épuisés et malades. Et d'ailleurs, ça génère beaucoup de problèmes parce que il y a beaucoup d'absentéisme, beaucoup de mes clients travaillent double pour compenser, etc. Donc voilà, alors vous dire quoi? Il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale pour indemniser les soignants qui avaient été suspendus.
Suspendu.
Cette loi qui devait abroger définitivement l'obligation vaccinale Covid et qui devait permettre l'indemnisation des soignants suspendus est bloquée puisqu'elle n'a pas été agendée au Sénat, c'est-à-dire encore les techniques macronistes. La loi devrait être votée au Sénat, mais on fait tout pour qu'elle n'aille pas au Sénat, qui sans doute risque de nous donner raison parce que la majorité étant de droite, c'est quand même la majorité de droite hein, qui a permis cette abrogation, ce premier passage, ce premier vote à l'Assemblée. Donc, bah, du coup, pour pas revenir sur le sujet, on n'agende pas le vote. Donc, bah, voilà typiquement un truc pas illégal, mais qui est complètement manipulatoire. La loi ne passe pas au Sénat. Donc, nous, on est en train de bosser avec le collectif Les 300 et le SLS, donc le syndicat Liberté Santé. On est en train de travailler pour faire du lobbying pour que cette loi puisse être soumise au vote du Sénat. Parce que cette loi de deux lignes, enfin de deux articles qui avaient été présentés par le groupe Liotte, mérite un vote, même s'il doit être négatif, mais il faut que ça revienne sur le tapis. Parce que nos soignants suspendus ont perdu pour beaucoup 20 mois de salaire. Enfin, c'est pas anodin. Ils ont perdu des situations, des maisons. Beaucoup se sont. Enfin, on n'imagine pas l'horreur que ça a été, l'horreur absolue.
Et hélas, on l'imagine, puisque voilà, plusieurs ont témoigné, y compris à cette antenne. Et d'ailleurs, l'un d'entre eux a tenu à nous écrire. J'ai participé au mercredi soir de Réinfo avec Maud Marianne,
Voilà, c'est
Diane
ça.
Prota et bien d'autres personnes. Même si nous avons perdu sur les référés d'urgence, puis sur le fond, merci de nous avoir soutenus tous ces mercredis soirs et de nous avoir écoutés. Encore mille merci. Donc voilà, vous avez au moins le sentiment juste d'avoir mené le bon combat. Ce qu'il y a de fascinant dans cette histoire, c'est que voilà, vous êtes une avocate installée en train de traiter de droit maritime, et donc on imagine qu'il y a des porte-conteneurs avec des biens de valeur qui sont censés franchir le détroit d'Ormuz à l'époque et qui, grâce à vous, arrivent à bon port et permettent d'inonder de machines à laver somptueuses l'ensemble des foyers français. Et puis le Covid arrive et c'est tout l'édifice qui se lézarde. Vous commencez à vous occuper des gens qui sont suspendus, ça vous paraît indu et injuste. Vous découvrez la liberté d'expression. En fait, c'est comme une espèce de raz-de-marée qui vous a submergé. C'est toute la société française qui, brusquement, est une société, non pas de confort, d'égalité, de fraternité, mais au contraire, une société de coercition, de violence, et de la pire des violences, sumumius, summa injuria, comme on dit chez les avocats, c'est-à-dire, c'est l'État lui-même, le souverain, celui qui détermine les lois, qui en fait opprime l'intégralité de ses sujets.
Ouais, c'est ça. C'est ça, mais enfin, j'ai presque honte. Je pense que c'était. Je vivais très naïvement avant ça, je
Alors,
pense. Hein,
c'était pas du tout le sens de ma question, évidemment.
non, 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 mais en fait,
Ouais.
ça me fait réfléchir parce que je me dis, oui, bah, à tout d'un coup, à 40 ans, je me réveille. Enfin, bref. Mais bon, je pense que c'était tellement discret, en tout cas dans le monde dans lequel moi j'évoluais. J'avais vu des injustices, bien sûr, il y en a. Enfin, mais c'était. Et puis, je sais pas, je pense qu'elle était, elle me semblait pas institutionnelle. Les situations d'injustice me paraissaient rares et pas institutionnelles, si vous voulez. C'était une anomalie pour moi. Donc, je suis passée d'un monde dans lequel le droit, voilà, effectivement, c'était le droit des gros litiges, des arbitrages, très machin, voyez, huitième, etc. Bon, voilà, ce monde qui est quand même assez protégé, avec de temps en temps, bah oui, quelqu'un qui venait me voir avec un dossier qui était vraiment injuste, mais qui était une anomalie, donc j'allais la réparer. Et puis tout d'un coup, là, j'avais le président de la République, je ne vais pas dire que je l'aimais ou pas, je m'en fichais un peu, enfin, il ne me dérangeait pas plus que ça, mais tout d'un coup, qui nous dit un truc, là, mais il est en train de nous expliquer qu'il va mettre... Il va mettre sur le carreau les gens qui nous soignent. Bon, moi, j'ai une sensibilité particulière. Je l'avais expliqué quand on m'a demandé la première fois pourquoi j'ai fait ça. Ma mère a eu un très grave accident de voiture. Elle était handicapée depuis 40 ans. Elle est décédée il n'y a pas très longtemps, mais elle a passé 40 ans dans un lit. Donc, les soignants, pour moi, c'était des demi-dieux, des héros, quoi. Ils se sont occupés d'elle, de nous, enfin, d'une manière que j'oublierai jamais. Pour moi, c'est ces gens. Dans le contexte actuel, on est à l'hôpital, donc c'est eux qui nous accueillent et la plupart d'entre nous meurent à l'hôpital. C'est eux qui nous accompagnent quand on s'en va. Je veux dire, ils ont un rôle. Vous allez les voir quand vous avez mal quelque part, ils vous soulagent. Enfin, ils sont très, très importants. Et sans entendre qu'on allait suspendre pour une histoire de vaccin, enfin, j'ai pas compris. J'ai dit, mais. Et tout d'un coup, comme vous dites, je me suis dit, mais l'État est en train d'utiliser contre nous les armes qui devraient en fait nous protéger et nous
Ça.
permettre de vivre dans une vie, dans une société harmonieuse, quoi.
Et,
J'étais choquée.
vous utilisez aussi d'ailleurs le hashtag, bon c'est pas très joyeux, mais je ne suis pas suicidaire. Pouvez-vous nous en dire plus sur les raisons de cette mention et sur les risques que prennent les avocats engagés hein, dans des causes sensibles?
Bon, je vais être sincère avec vous.
Merci.
À chaque fois qu'on m'a demandé, on m'a dit, ouais, t'as défendu Amandine Roy et ceci, cela, et tu fais ce. T'as des ennuis, et je n'ai aucun ennui, d'accord? Mais quand je vous dis aucun, c'est que j'en ai aucun.
D'accord.
Donc, bah, ça permet à certaines personnes de dire, oh, bah, voilà, elle, c'est l'opposition contrôlée. Bon. Et puis d'autres qui s'étonnent, en fait, qui disent, bah, ça va venir, ou bon. Je sais pas vous dire. Je sais pas vous dire. Je ne peux que constater que des personnes ont été victimes vraiment d'un acharnement de la part des politiques, de la police, du fisc, que sais-je, pour les faire taire. Il se trouve que soit j'ai un discours qui passe, mais je pense. Tous les mois, je me suis toujours tenue à l'écart de la politique. Moi, je fais du droit. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'avis politique, mais c'est pas mon propos. On m'interroge. J'ai aucune légitimité à donner un avis politique. Je suis pas politicienne. Je connais rien. C'est juste voilà. Par contre, le droit, je connais. Et en fait, je me suis toujours contentée de plaider le droit. Et je pense que quand on se tient à ça et qu'on se mêle pas trop d'autres choses, on peut encore ne pas avoir trop d'ennuis. Mais je peux pas écarter. Si quand je vois ce qui se passe pour d'autres gens et quand je vois que oui, il y a quand même des indices laissant à penser que le système peut se mettre à sanctionner voilà, par un meurtre ou par un meurtre social des gens. Ouais, je préfère dire que je suis pas suicidaire parce que si demain on me trouve pendue dans ma cave, ça sera pas de mon fait, c'est sûr et certain. Et je suis pas. Je sais pas, il me reste cette part de naïveté de croire que ça m'arrivera pas, mais quand même, on m'a tellement dit, mais comment ça se peut? Mais méfie-toi. Alors c'est vrai que, bah, par exemple, dans le métro, on me dit, fais attention, on va peut-être te pousser sous les rails. Enfin, vous voyez, les gens en plus vous rendent paranoïaque. Mais ouais, je peux pas exclure que le système s'acharne sur. Bah, je suis un petit, un. Je pense que je suis une petite goutte dans la mer. Donc pour l'instant, ils ont assez à faire avec d'autres. Mais pourquoi pas, après tout. Et puis, on n'en a pas parlé, mais j'ai oublié de vous dire, en fait, je suis quand même montée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour les soignants suspendus. Il nous reste cette voie. On a quand même beaucoup travaillé. J'espère qu'on aura un résultat. Je vois bien qu'on embarrasse quand même. Oui, on met le gouvernement en difficulté quand même avec nos arguments. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'on peut rien exclure, en fait. C'est triste, hein.
Et quelles sont les perspectives justement puisque vous parlez de CEDH, d'une condamnation de la France, et quelles conséquences cela pourrait-il avoir pour les victimes?
Alors, moi, je vais vous dire, je suis assez. On se dispute souvent sur ça avec Carlo Brusa, avec qui on travaille très très bien ensemble par ailleurs, mais sur ça, on n'est pas d'accord. Il me trouve encore trop trop trop. Trop puéril, trop naïf sur ça. Moi, j'ai quand même un espoir à la Cour européenne des droits de l'homme parce que ils ont rendu un arrêt dans l'affaire de Sanmarin qui validait le fait qu'on utilise le vaccin Covid dans certaines conditions pour protéger la santé publique, mais c'était des conditions qui étaient très différentes de la France. Et j'ai proposé à la Cour européenne, j'allais dire, quelque chose d'équilibré en disant, bah écoutez, oui, qu'on ait paniqué entre septembre, enfin entre l'été 2021 et début 2022, bon, ça n'allait pas bien, la maladie était mal comprise, on a cru que le vaccin allait fonctionner, ok, mais à partir de janvier 2022, ça tient plus parce qu'il y a Omicron, etc., etc. Voilà. J'ai proposé un plan de repli. Et je me dis que les juges, voilà, sans se dédire, peuvent peut-être nous accorder un peu quelque chose. Okay. S'ils nous accordent quelque chose, c'est-à-dire s'ils nous accordent ce que moi je leur demande, c'est-à-dire de sanctionner les suspensions qui ont été maintenues au-delà de janvier 2022, bah, ça voudrait dire que les clients pourraient récupérer un an et demi de rémunération, ce qui serait beau. Alors après, attention, vous voyez, le système est tellement bien fait que c'est quand même là aussi sur des finances publiques que tout ça va être payé avec la situation dramatique dans laquelle on est. Mais bon, c'est pas des milliards, pas exagéré.
Oui, c'est ça, parce que à côté de ça, il y a des milliards qui sont distribués à droite et à gauche, notamment par l'Agence française de développement et par la voix d'Emmanuel Macron qui promet 1 milliard ici, 5 milliards là, 10, 20, 90. Donc autant que ces milliards déjà dépensés et déjà promis, il n'y en est même pas 1 milliard qui tombe dans la poche des suspendus.
Exactement. Mais si vous regardez bien cette histoire de suspension et toute cette histoire de Covid, en fait, vous avez l'État français a une obligation de garantir la santé publique de son peuple. Ok, c'est constitutionnel. Mais jusqu'à là, l'objectif de santé publique qui est constitutionnel, il consistait pour l'État à dépenser de l'argent et à mettre en place des politiques sanitaires, donc des hôpitaux, des médecins. Voilà, c'était à l'État de dépenser de l'énergie et de l'argent pour notre bien à tous. Pendant la crise sanitaire, qu'est-ce qui s'est passé? L'État s'est mis de côté en disant, Eh les gars, c'est votre problème, il faut des masques, démerdez-vous, masquez-vous. Faites-vous vacciner et nous, par contre, les soignants, tout ça, on n'a pas. Non, on va pas vous soigner en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On a déplacé la charge. Et ce qui me choque dans le système Macron depuis toutes ces années avec les agriculteurs, c'est pareil. C'est à chaque fois, on déplace la charge. Nous, on doit individuellement faire 1 500 efforts, dépenser de l'argent, restreindre nos libertés, prendre des mesures drastiques à notre niveau, sinon on est sanctionné. Mais qu'est-ce que fait l'État en fait? Rien.
Oui,
Vous voyez ce que je veux dire?
l'État est irresponsable. Vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que au moment de la réforme constitutionnelle que Nicolas Sarkozy avait engagée, l'une des questions était la responsabilité du chef de l'État. Et comme par hasard, dans tout ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, c'est le truc qui a disparu. Bon, ben voilà, la
On se
patrouille,
demande pourquoi,
la, hein,
hein,
voilà, la patrouille l'a rattrapé
C'est
quand même.
bizarre.
Hein, voilà, donc à défaut d'être condamné pour les bonnes raisons, il a été condamné et
Un de 16 qui veut juger le chef de l'État.
Mais, oui, c'est vrai. Mais moi, je veux qu'on juge le chef de l'État parce que le chef de l'État voulait être responsable. Ce qui est amusant, c'est dans le cas de mon ancêtre, c'est qu'il a défendu un roi qu'on accusait faussement en ayant supprimé les droits de la défense. Enfin, voilà, donc c'est un peu différent. Et là, l'État est effectivement irresponsable par principe. Et chaque fois que un homme politique nous dit « j'ai pris mes responsabilités », ça signifie « je reste au pouvoir si jamais j'ai fait une crapule ». crapulerie, ou j'aimerais que mon adversaire prenne ses responsabilités, sous-entendu, lui doit démissionner pour la même crapulerie qu'il a commise. Et on se retrouve avec effectivement des Français qui sont responsables. L'État n'a pas d'argent, vous devez baisser votre chauffage. L'État pompe plus de 50% du prix de l'essence, et bien vous devez restreindre vos déplacements. Mais l'État ne baissera pas les taxes. Et donc, effectivement, là, l'État était prêt à dépenser des centaines de milliers d'euros pour envoyer des gendarmes survoler en hélicoptère les forêts pour traquer un promeneur qui était en train de se colter vraisemblablement avec un virus de la taille d'un lapin. Mais il était hors de question, évidemment, qu'on fasse en sorte de bien traiter les vieux dans les EHPAD. Au contraire, l'État a décidé qu'on pouvait les distribuer des médicaments dont on savait qu'ils allaient, dans la plupart des cas, les amener à la mort. Et c'est absolument fascinant de voir à quel point l'État se retire de la vie des Français.
C'est ça. Et maintenant, donc, en fait, on est nous... Individuellement, on doit prendre double ou triple charge des intérêts collectifs, en fait. Et c'est ça qui est bizarre. C'est du coup, alors à quoi ça sert tout ça? En fait, nos impôts servent que à payer des salaires à des gens qui ne servent pas à grand chose. Même si on prend les aides, etc., même si on veut discuter, est-ce que c'est une bonne politique? Non, mais d'accord, enfin, on peut se poser des questions. Mais par exemple, si vous voyez, quand vous écoutez les gens qui vous parlent du chômage, vous voyez France Travail, à quoi ça sert? On paye des gens à empêcher les autres gens de trouver du travail et de toucher leurs aides. En fait, c'est des espèces de garde-chiourme qui sont d'ailleurs hyper malheureux. Mais plus rien ne fonctionne comme ça devrait. Et quand vous avez l'outrecuidance de regarder un policier ou un magistrat ou n'importe qui, un fonctionnaire, en lui rappelant qu'il est à votre service, que le service public, c'est vers le public, mais vous avez commis une hérésie, vous blasphémez. Et alors que vraiment, pour moi, la crise Covid, c'était ça le critère. Ça a été l'inversion des responsabilités. Enfin, la charge a été portée à l'inverse. Et c'est ça que j'accepte pas, parce que je pense que c'est le pli qui est en train de prendre la France sur le plan institutionnel à tous les niveaux. Et ça, c'est un vrai sujet pour moi. Au-delà de, voilà, encore une fois, des petites, on peut avoir des idées différentes sur comment aborder le sujet économique, politique. Mais par contre, sur le principe, pourquoi un État aussi bedonnant si ça sert à rien, quoi. Enfin, je veux dire.
Et Maud Marian, vous avez, on va dire, plusieurs cordes à votre arc. Hein. Quel conseil donneriez-vous aux auditeurs de Radio Courtoisie qui s'intéressent à la justice, à la culture ou à la méditation, hein, n'est-ce pas, pour naviguer dans un monde de plus en plus polarisé?
Je sais pas. Moi j'ai une obsession depuis plusieurs dizaines d'années, c'est... ce qu'on appelle la souveraineté individuelle. C'est-à-dire que c'est vrai que de nos jours, on entend beaucoup parler souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, souveraineté tout court, l'Europe, la souveraineté des États. Enfin, la souveraineté, c'est un thème récurrent. Mais moi, je dis peut-être que c'est faux, mais j'ai l'impression que si chacun a bien conscience de son pouvoir et est bien droit sur ses pieds et bien verticalisé, là, on est pas manipulable. C'est-à-dire qu'après, on peut avoir n'importe qui à la tête de l'État, n'importe qui en face, un flic, peu importe. On est bien sûr de soi. La souveraineté individuelle, c'est très important. Et je pense que quand on est un peu déçu en disant « mais les Français acceptent des choses incroyables », enfin, les Gilets jaunes étaient dans la rue pour des problèmes de prix de l'essence. L'essence est à 2 euros, je sais pas combien, le gasoil à 2,20 €. Il y a personne qui bouge. On est en panique, on va pas payer nos crédits, comment on va faire? Enfin, voilà, les gens sont pris sont complètement emmenés sur des considérations qui sont certes importantes, mais qui sont secondaires, en fait, par rapport à leur intégrité, à leur souveraineté. Donc moi, je dis aux gens, revenez à vous. Le monde est fait pour vous faire peur actuellement, parce que quand vous avez peur, vous êtes bête, mais pas de votre faute. C'est parce que votre cerveau se mobilise sur la guerre, la peur de pas avoir assez à manger, etc., ce qui est légitime. Mais du coup, vous pouvez plus réfléchir. Faut s'arrêter. Faut arrêter le bruit. Faut s'enfermer quelque part. Sinon, méditer, au moins, revenir à soi et se dire, mais en fait, dans quoi est-ce qu'on m'emmène là? Est-ce que je veux aller là? Parce que si on veut pas, on n'y va pas. Moi, je dis ça toujours, faire un pas de côté, refuser de manière très soft. Moi, je me dispute pas, je hurle pas. Non, merci, ça m'intéresse pas et je fais mon pas de côté. Point.
Vous vous concentrez sur vos toiles aussi, n'est-ce
Ouais.
pas?
Bah, j'ai plus beaucoup de temps, mais oui, j'aime bien. Ouais, j'aime bien.
Bah, c'est un
Non, mais
moyen.
j'avoue que depuis 2020, j'ai l'impression que je passe tout mon temps à m'occuper des autres, mais c'est très très bien. Enfin, je veux dire, je suis très contente de ça. Mais ça prend du temps et puis c'est usant, hein, parce qu'on a quand même peu de résultats et on a beaucoup beaucoup de souffrance. Là, sur les ASE, je travaille un petit peu aussi.
Et les
Franchement, il n'y a
ASE,
pas
voilà,
un sujet qui vient.
on en a parlé sur Radio Courtoisie avec notamment l'avocat Michel Hamas. Et là aussi, ce qui est absolument fascinant, c'est le même constat, c'est-à-dire l'État qui est censé assurer la sécurité, l'État qui prétend être capable de se substituer aux parents, à organiser, en fait, à une vaste échelle, à laisser s'organiser à une vaste échelle la prostitution. Et là aussi, la justice, d'une manière inexplicable, considère que les clients de ces prostituées mineures, qui ont évidemment des proxénètes, ne sont pas si condamnables que ça. On commence par criminaliser le prostitué mineur en expliquant qu'il est vagabond,
Ouais,
on
c'est...
l'accuse de racolage, et les clients se prennent genre 6 mois avec sursis alors qu'ils ont consommé une prostituée mineure, qu'il s'agisse d'une prostituée mâle ou d'un prostitué, enfin d'une prostituée. Femme
Femme,
ou d'un
hein.
prostitué homme. Et la justice laisse tomber. Michel Hamas poursuit des représentants de la puissance publique, ceux qui sont censés gérer l'ASE, c'est-à-dire les responsables départementaux, les responsables des conseils régionaux, et voilà, la justice est d'une aimable lenteur.
Non, mais vous vous rendez compte que on vit au milieu de tout ça et de tout ce qu'on ne sait pas encore, parce que chacun individuellement on a pu avoir des infos à droite à gauche, mais tout ce qui n'est pas encore porté à connaissance du public. Mais on vit au milieu de tout ça il faut qu'il y ait un type juste fabuleux, Hamas, qui tout d'un coup dise: mais j'en ai marre, il faut le faire savoir. On est tous là à dire: ah, mais c'est fou, mais ça se passe depuis des dizaines d'années et le système dysfonctionne profondément. Aujourd'hui, est-ce que vous avez souvent des gens qui vous disent: ah, je suis contente, j'ai porté plainte, ils ont arrêté mon agresseur ou mon voleur, c'est super, la police était super sympa? Non, on connaît plus la police pour se faire embêter, contrôler: est-ce que tu as fait ton contrôle technique, est-ce que tu as ton autorisation de sortie, etc. On n'est
Tout
plus
à
du
fait.
tout dans un monde dans lequel on peut compter sur tous ces gens. Vous allez aux urgences, vous n'avez pas de médecin, vous hospitalisez votre mère, on vous la rend dans un cercueil parce que bon, voilà, oui, bah, on lui a donné... Ouais, bon, voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Bref, tout est comme ça. Donc, en fait, bon, vous dites: non, mais attendez, on vit sur quelle planète? Et c'est ça dont les Français doivent se rendre compte, parce que on le vit tous au quotidien, de manière directe ou indirecte. Mais on va, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous victimes à un moment, et que si on ne fait pas au moins ce temps d'arrêt de dire: non, 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 mais dans quel monde je veux vivre? Et est-ce que je veux aller là où on me pousse? Si on ne fait pas tout ça, je pense honnêtement que ça va. Voilà, ça va s'aggraver et que là, pour le coup, ça peut exploser dans des conditions que j'ai pas envie de connaître, violentes et
Mais
terribles, dans la misère.
merci, Maud Marian.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir accompagnés. Enfin, je vous interromps, il nous reste 10 secondes.
Vous
Merci
avez très bien fait.
à tous ceux qui nous ont suivis sur ce Restons Courtois. Demain, c'est Arthur de Vatrigan qui vous recevra. Et n'hésitez pas, si l'émission vous a intéressé, soutenez Radio Courtoisie. Vous êtes quelques milliers à le faire. N'hésitez pas, rejoignez la cohorte des gens qui pensent bien.
Ça suffit maintenant!